Bonjour et bienvenue dans votre tour d'horizon de Hacker News, je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Aujourd'hui, on part de la frénésie autour des nouveaux modèles d'IA, et tout enchaîne naturellement. À quoi servent ces modèles? Que valent leurs réponses? Et que se passe-t-il quand on leur confie des choses sérieuses?
Commençons par le fait du jour côté modèle. Meta publie MuseSpark à Mars, une version explicitement orientée agent et tâche de programmation, avec un mode Max Reasoning. Meta affirme que, sur plusieurs benchmarks, le modèle se situe au niveau de GPT 5 juin, Sol et d'Opus 5.
Ce qui frappe, c'est le rythme général. Google sort Gemini 3 août Flash à 0,75$ en entrée et 3,75$ en sortie par million de tokens, avec des gains annoncés sur le code et les agents, plus une déclinaison cyber dédiée à la cybersécurité. Et attention, c'est le troisième Flash en 6 semaines.
3 Flash en 6 semaines, ce n'est plus une cadence de publication, c'est une course. Et ça pose la vraie question, est-ce que ça améliore vraiment les choses ou est-ce qu'on empile des numéros de version?
Côté retour d'usage, Simone W. a testé MuseSpark 1 mars sur des générations de SVG et trouve la qualité supérieure à la 1 février. C'est subjectif, mais c'est le genre de test concret qui complète les benchmarks officiels. Le modèle propose aussi un contexte d'un million de tokens à 1,25$ le million de tokens en entrée et 4,25$ en sortie.
Et justement, les outils de comparaison eux-mêmes sont attaqués. OpenTeam critique le Graphic Intelligence Coût d'Artificial Analysis en faisant deux reproches. D'abord, l'échelle logarithmique masque les écarts de prix réels entre modèles. Ensuite, argument plus profond. Pour les modèles locaux, le coût pertinent serait l'électricité, pas le prix d'API.
Oui, parce qu'un graphique qui compare tout en dollars par million de tokens compare en fait des choses qui n'ont pas la même économie derrière. Et il y a une autre mesure qui relativise pas mal d'annonces. Frontier Harness a fait tourner 9 harness d'agents différents sur le même modèle, Kimika 3, et le coût d'une même tâche varie d'un facteur 17, de 1,05 à 18,34$.
Un facteur 17 à modèle identique. Ça veut dire qu'une partie énorme de la performance perçue ne vient pas du modèle mais de ce qu'il y a autour. Comment on le pilote, combien d'appels on fait, comment on gère les échecs et les répétitions.
Signalons aussi Quasar 438B de Multiverse Computing, présenté comme le meilleur modèle européen, 43 à l'index Artificial Analysis, 500 tokens générés en 15,3 secondes, en anglais et en espagnol. C'est un repère intéressant pour la souveraineté, même s'il reste loin des scores des leaders dont on parlait.
Et pour remettre tout ça en perspective théorique, McCoy et ses collègues publient un résultat qui parle aux deux camps. Les vecteurs des réseaux de neurones, y compris ceux des LLM, sont approximables par des structures symboliques en forme fermée, sans changer le comportement du modèle.
C'est un résultat dérangeant pour le débat classique. Si on peut approximer ce que font les vecteurs par du symbolique, ça suggère que l'opposition modèle connexionniste contre système symbolique est moins nette qu'on ne le raconte. En tout cas, ça donne de nouvelles façons d'analyser ce que ces modèles font réellement.
Bon, maintenant, ces modèles sont massivement utilisés pour chercher de l'information. Et c'est là qu'on passe à une discussion qui a fait beaucoup réagir. La fiabilité des citations de Perplexity.
L'audit de House Research est assez sévère. Ils ont examiné 1826 citations de Perplexity et 34,7% des pages référencées sont inaccessibles ou bien ne contiennent tout simplement pas les chiffres que Perplexity leur attribue. Mesuré autrement, par affirmation, ça fait 14,4% d'échecs.
Ce qui est intéressant, c'est la distinction entre les deux mesures. Une page morte ou muette, ce n'est pas la même chose qu'une affirmation fausse. Le premier chiffre mesure la traçabilité, le second mesure l'exactitude des revendications. Et les deux sont mauvais, mais pour des raisons différentes.
Et il y a un corollaire qui explique en partie le phénomène. Trois sites, créés fin 2023, ont généré 215 128 pages de type Best Software, clairement fabriquées pour être citées par les IA. Résultat, 59,8% des citations de Perplexity sortent complètement du top 100 000 tranco.
C'est le SEO génératif en action. On ne cherche plus à plaire à Google, on cherche à être la source que l'IA va recopier. Et si les modèles favorisent ce type de contenu, on crée une boucle où la machine apprend sur des pages fabriquées pour la machine.
La question qui reste ouverte et qui a animé les discussions, qui vérifie les autres sorties de l'IA? Parce que si un tiers des citations ne tiennent pas la route, chacun a intérêt à vérifier soi-même, ce qui revient un peu à défaître le gain de productivité annoncé.
Et parfois, se tromper n'est pas une simple perte de temps. Des chercheurs ont testé 4 LLM, dont GPT-5.6 Sol, sur une tâche où l'erreur peut être dangereuse, identifier des champignons vénéneux. Ils ont utilisé le jeu de données Fungitastic, 340 000 observations couvrant 2800 espèces.
Et le constat est sec. Le taux d'erreur dangereuse est élevé. Autrement dit, les modèles ne se contentent pas d'hésiter. Ils affirment des choses qui peuvent envoyer quelqu'un à l'hôpital. C'est un cas d'école. Parce qu'avec les champignons, une confiance excessive coûte cher.
Face à ce genre de risque, il y a deux stratégies. L'une, technologique, via un Anthropic, un outil de détection de crédentise C2PA qui permet de vérifier si un fichier a été traité par Claude. Mais l'outil a une limite assumée. L'absence de crédentise ne prouve pas qu'un contenu n'est pas généré par IA.
L'autre stratégie, celle-là, est politique. À New York, le maire Mamdani interdit l'IA dans les salles de classe du primaire et du collège. Ses partisans défendent l'idée que les élèves doivent d'abord apprendre à penser par eux-mêmes avant de déléguer quoi que ce soit à une machine.
C'est un débat intéressant parce qu'il rejoint exactement ce qu'on vient de dire. Si un adulte ne peut pas vérifier les citations de Perplexity, on comprend l'argument de ceux qui disent qu'un enfant de 10 ans n'a pas les outils pour évaluer une réponse de chatbot.
Bon, passons aux outils eux-mêmes, et là on a un contraste spectaculaire. Fable 5 janvier a généré en une seule passe un monde 3D entier de San Francisco, Union Square précisément, 453 bâtiments, 129 vitrines, 220 piétons, le tout pour environ 8 millions de tokens, soit 33$.
33$ pour un monde 3D d'un quartier entier. Il y a encore quelques années, c'était le travail de semaines d'équipe. Et en même temps, à l'autre bout du spectre, il y a des outils modestes qui gagnent juste à rendre le contrôle à l'utilisateur.
C'est le cas d'Imish, l'alternative auto-hébergée à Google Photos. Déploiement en Docker, sauvegarde automatique depuis le téléphone, synchronisation multi-utilisateur. Et les retours sur HN sont très positifs. Plusieurs commentateurs décrivent une expérience au quotidien qui tient vraiment ses promesses.
C'est un signal intéressant. On parle beaucoup d'IA générative, mais une partie de l'énergie de la communauté part aussi dans la réappropriation de ses propres données. Encore un outil dont le sort est discuté. WebLLM, le moteur d'inférence qui tourne dans le navigateur via WebGPU avec ses 18 800 étoiles.
Sauf que certains commentateurs le jugent mort et recommandent plutôt de passer à LAMAP1CP avec WebGPU ou à Onenix. C'est un cas classique de projet qui a marqué son époque, prouvé que c'était faisable, puis se retrouve concurrencé par des solutions plus actives. La question de savoir s'il doit être déclaré moribond reste débattue.
Et dans la catégorie maintenance de l'infrastructure commune, Aïssa l'a trouvé 6 CVE dans Curl, alors que Codex et Mythos n'en avaient signalé aucune. Toutes de faible gravité, heureusement, et déjà corrigées dans Curl 8 février 2.0.
C'est un point intéressant pour la discussion outils d'audit. Ici, l'humain outpassait les agents de code. Ça ne veut pas dire que les agents sont inutiles, mais ça montre que la couverture d'audit n'est pas équivalente selon la méthode. Et OpenTeam revient d'ailleurs dans cette discussion, avec sa critique des graphiques coût-performance qu'on évoquait en début d'émission, sur la lecture trompeuse des échelles logarithmiques.
Reste un dossier de ce monde-là. SteamDB, racheté par la maison mère de Nexus Mods. Sur HN, la crainte principale est une mise sous paywall des fonctionnalités, et certains s'interrogent du coup sur la valeur réelle de ces données.
C'est un site que tout le monde utilise sans jamais y penser, et soudain son indépendance devient une question. On verra ce que le nouveau propriétaire en fait, mais la défiance est installée d'avance.
Après les outils, un détour par la science et d'abord par nos propres têtes. Des chercheurs ont étudié le cerveau vieillissant et leur conclusion nuance l'idée qu'il s'agit simplement d'oubli.
Leur hypothèse, l'hippocampe ne perd pas seulement des souvenirs, il surgénéralise leur extraction. Résultat, des confusions entre catégories, des souvenirs qui se mélangent entre contextes qui n'auraient rien à faire ensemble. Avec une réserve importante, l'échantillon ne compte que 61 personnes, donc il faut rester prudent.
Oui, c'est un premier pas, pas une conclusion définitive. Mais c'est un renversement conceptuel séduisant. Le problème ne serait pas la mémoire qui s'efface, mais le filtre qui se relâche. Et en parallèle, un détour côté Cosmos, avec LZ, le plus grand détecteur de matière noire au monde.
LZ a observé un seul événement anormal, un seul. Et l'équipe elle-même dit qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de découverte. Des données supplémentaires sont en cours d'analyse pour savoir si c'est un signal ou du bruit.
C'est un joli contraste avec tout ce qu'on a dit avant. En IA, on annonce des égalités avec les meilleurs modèles sur des benchmarks. En physique des particules, un seul événement suspect et tout le monde s'abstient de conclure. Deux cultures scientifiques très différentes face à l'incertitude.
Revenons maintenant au concret, et même au passé. Le Commodore 64 vient de fêter ses 44 ans. Sorti le 1er septembre 1982, 64 KO de mémoire sous $600, environ 12,3 millions d'unités vendues. Ça en fait toujours l'ordinateur le plus vendu de l'histoire.
Et en face, un très bel exemple de repli géographique contemporain. Uber quitte immédiatement le Nigeria et l'Ouganda, après avoir déjà quitté la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Il ne reste à Uber que 4 pays africains. L'Égypte, le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud.
Un contraste saisissant, en effet. Une machine de 1982 qui a vendu plus que tout autre ordinateur contre une plateforme qui se retire de pays entiers en quelques mois. Ça dit quelque chose sur la différence entre un produit utile localement et un modèle économique qui doit fonctionner partout.
Quelques sujets variés pour terminer, tous liés à des discussions qui ont fait débat. D'abord, l'antitrust. Google a gagné son procès sur la technologie publicitaire et échappe à une scission. La juge Brinkema, nommée par Clinton, a tranché en sa faveur, et sur HN, plusieurs commentateurs trouvent la décision trop clémente.
Ensuite, une histoire qui a fait grincer des dents côté confidentialité, Mistral a activé par défaut l'entraînement sur les prompts au niveau team, et au passage, le réglage central admin pour le désactiver a disparu. La documentation a été corrigée après les réclamations, ce qui laisse penser que ce n'était pas un choix documenté dès le départ.
Un mot aussi sur l'écosystème des sites indépendants. LAWN augmente ses abonnements d'environ 20% au 15 septembre 2026. C'est la première hausse depuis 2022, et la raison donnée, c'est que la croissance du nombre d'abonnés est bloquée.
Et pour les amateurs d'algorithmes, un petit régal. Bridson, dont l'algorithme d'échantillonnage de poissons tient sur une page et publié en 2007, approche les 1000 citations. Il propose une optimisation, l'élimination conique des points par an, qui réduit le nombre d'itérations. 20 ans après, on optimise encore la page.
Côté matériel et sécurité, GraphenOS note une info sur le Pixel 11. Le support matériel MTE reste présent mais minimal, et les performances dégradées, après le retrait de l'accélération par cache, ont conduit à sa désactivation dans le firmware. Donc une capacité technique qui existe, mais qu'on ne peut pas vraiment exploiter.
Enfin, deux débats de société. Le premier autour d'un texte intitulé « Exit the Cave », qui défend l'idée qu'apprendre en public, en assumant d'échouer devant tout le monde, vaut mieux que s'entraîner en privé. Sur HN, la discussion porte sur les limites de ce principe, notamment pour la création artistique et l'expression publique, où l'exposition précoce peut aussi blesser.
Et l'autre autour d'un biais qui défend la vie NPC, comme état d'esprit ultime du « je m'en foutisme ». Ça n'est pas passé sans résistance. Plusieurs commentateurs rétorquent que la réalité a des conséquences et qu'ignorer la politique et les risques, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'impuissance apprise.
Et on termine par une leçon d'ingénierie qui, incidemment, fait écho à nos audits de ce matin. En 2010, le vol 32 de Qantas, le moteur numéro 2 d'un A380, explose en plein vol. L'enquête trouvera la cause. Un tube à huile dont la paroi était trop fine de moins d'un demi-millimètre.
Moins d'un demi-millimètre et 469 personnes à bord qui doivent leur survie à l'équipage et à la conception globale de l'appareil. On a parlé de citations qui ne tiennent pas, de champignons mal identifiés, de benchmarks discutables. Ici, la leçon est la même, ce sont les détails qui tuent, et ce sont les détails qui sauvent.
Voilà pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour une nouvelle sélection.
Excellente journée à tous, et à bientôt.